Bonjour. Je vais commencer par remercier Ève Gardien de m'avoir invitée à ce très intéressant colloque. J'ai assisté à toute la première journée que j'ai trouvée très intéressante et où on a beaucoup parlé de la pérédance bénévole, militante, voire informelle, spontanée. Et donc là, moi, je vais vous parler aujourd'hui de la pérédance professionnelle dans le champ que je connais bien, qui est celui de la santé mentale, puisque mes recherches portent maintenant essentiellement sur la santé mentale. Alors, l'expérience dont je vais, à partir de laquelle je vais parler, c'est le fait que j'ai été chargée de l'évaluation du programme expérimental, du premier programme expérimental, de la première promotion de pérédants professionnels, de pérédants salariés qui se sont appelés médiateurs de santé pair, qui a donné lieu, comme je ne vais pas pouvoir vous parler en 30 minutes, je ne vais pas pouvoir vous parler de tous les aspects de cette évaluation, je vous donne quelques références. Nous avons pu regarder les médiateurs de santé pair travailler, nous avons observé leurs interactions avec les usagers de la santé mentale. Nous avons interviewé 84 usagers en leur demandant comment ils avaient vécu l'interaction avec les pères aidants. Nous avons bien sûr interviewé les équipes et regardé les équipes pour voir les effets que faisait sur les équipes l'arrivée d'un père aidant salarié. Bon, donc dans ces textes, vous avez un peu le compte-rendu de ces différentes observations. Alors donc, on va parler de la professionnalisation des pères aidants, ou de la pères aidance professionnelle. Alors pour moi, c'est une question un peu floue et un espoir un peu flou. Bien sûr, même si les pères aidants professionnels espèrent continuer à se légitimer et espèrent continuer à voir leurs emplois durer. Mais en fait, le terme de professionnalisation renvoie à trois notions différentes et à trois questions différentes. Il renvoie à la question de l'emploi rémunéré. Donc là, le père aidant professionnel s'oppose au père aidant bénévole, militant ou informel. Il renvoie à l'idée d'un métier, donc à un corps de connaissances, de savoir-faire et de savoir-être. Et il renvoie, ce terme de professionnalisation, renvoie troisièmement à l'idée de groupe professionnel, à l'idée de profession. C'est-à-dire, même si on n'emploie pas profession au sens anglo-saxon, mais qu'on l'emploie bien au sens français, il s'agit d'un collectif qui est capable d'intervention dans la société concernant à la fois sa licence, il y a une faute d'orthographe, c'est-à-dire son permis de travailler, son autorisation de travailler dans la société, et son mandat, c'est-à-dire ses missions, son domaine légitime d'action. Voilà, donc l'idée de groupe professionnel, c'est l'idée d'un collectif, d'un nous, nous, les médiateurs de santé pair salariés, capables d'intervenir pour justifier, légitimer leur travail. Alors, ces trois notions ne sont pas à hiérarchiser du tout, hein, puisqu'on peut parler, par exemple, Premier ministre, c'est un emploi, on peut parler du métier de médecin, et on peut parler de la profession de cheminot. Donc, mais ces trois notions qui reviennent à trois angles de vue sur le statut social du travail professionnel. Donc, je vais les prendre tous les trois successivement. Alors, d'abord, le père aidant professionnel, il a un emploi. Alors, on peut se poser la question, comment ça se fait qu'ont émergé des emplois rémunérés de père aidant? Alors, à mon avis, il y a trois grands phénomènes au confluent duquel a pu émerger ces emplois de père aidant professionnel. D'une part, premier phénomène, les demandes de la part des citoyens malades ou des usagers d'approfondissement de leur participation institutionnelle, c'est-à-dire non seulement la demande de respect, de reconnaissance, etc., mais aussi une demande de participation aux instances de décision dans la psychiatrie publique, et leur revendication de relations moins dissymétriques, plus horizontales, hein, selon le mot qu'ils emploient. Alors, les associations d'usagers, notamment la FNAPSI, a été particulièrement porteuse de cette revendication, et elle a été à l'origine de la première promotion de pères aidants rémunérés. Le deuxième phénomène, alors plutôt du côté de l'État, c'est le fait que l'État constate la faible efficience de la médecine psychiatrique et peut espérer, en introduisant des pères aidants professionnels dans les services psychiatriques, peut espérer une augmentation de cette efficience, peut espérer bousculer un peu les pratiques des professionnels, de même que dans le reste de la société, bon, il y a un livre de Anne-Marie Dujarrier là-dessus, Le travail des consommateurs, de même que dans le reste de la société, dans la plupart des services, on utilise le travail des consommateurs pour améliorer les services. Je dirais que ça, c'est le point de vue un peu plus cynique du côté de l'État. Enfin, troisième phénomène, il y a eu la volonté de certains médecins psychiatres, je pense notamment à Jean-Luc Roland du CCOMS. Donc le CCOMS s'est investi dans la création d'un dispositif de médiateur professionnel dans une optique politique, hein, essentiellement politique, c'est-à-dire dans une optique de provocation au changement des pratiques de la psychiatrie. Hein, c'était son principal enjeu, je dirais, avant même d'être l'amélioration de la situation des patients, c'était faire changer les pratiques des services psychiatriques. Alors, que provoque l'emploi rémunéré ? Eh bien, il y a un aspect très provocant, beaucoup plus provocant que des postes bénévoles. Ça crée des tensions, hein, parce que les professionnels se sentent remis en cause, mais ça crée aussi des mises en mouvement des équipes psychiatriques, tout simplement parce que le père aidant est là, le père aidant assiste aux réunions, le père aidant entend ce que les professionnels disent des usagers, et donc on ne peut plus parler de la même façon des usagers. Donc la présence du père aidant joue sur le langage des professionnels, puis finalement sur leur représentation, avec un effet de déstigmatisation assez massif, et finalement sur les pratiques. Hein, par exemple, l'usage du téléphone portable, qui était considéré comme quelque chose de... le fait de donner son numéro de portable aux malades, qui était considéré comme quelque chose de complètement inconvenant, qui ne se fait pas, qui ne respecte pas la bonne distance, finalement, avec la présence du médiateur de santé père qui spontanément donne son numéro de téléphone portable aux malades, ben, les choses se mettent à changer et les professionnels se mettent aussi à donner leur numéro de téléphone portable aux malades. Alors, cet effet de provocation est bien sûr beaucoup plus fort que si le père aidant salarié l'était par une institution externe, hein, par une association, par un GEM, groupe d'entraide mutuelle, ou par un organisme de formation. Hein, c'est le fait qu'il soit là, sa présence au sein de l'équipe. Les effets de l'emploi ne sont pas que des effets sur les équipes, c'est aussi des effets sur le père aidant lui-même. Ce que j'ai pu constater, c'est des effets de rétablissement, hein, c'est-à-dire que qui joue pour la plupart des pères aidants, le fait d'accéder à un emploi rémunéré avec des horaires réguliers, avec un sens pour la vie, produit des effets de rétablissement remarquables au fait que certains d'entre eux qui étaient atteints de schizophrénie peuvent même arrêter la médication. Deuxième point de vue, donc, sur ce travail professionnel des pères aidants, c'est un métier. Alors, l'accès à l'emploi avec la procédure de recrutement pour l'emploi, demande en général un certain nombre de critères, demande des savoirs expérientiels, un certain rétablissement, pas forcément une stabilisation, mais un certain rétablissement, et demande aussi des compétences de communication qui ont été acquises dans la vie sociale ordinaire. La constitution d'un métier, ça signifie en plus plusieurs choses. Ça signifie un minimum de formation initiale. Donc les pères aidants salariés, en général, ont une formation. Là, en l'occurrence, pour les pères aidants CCOMS, c'était un DU qui a été délivré par l'Université de Paris 8. Et actuellement, puisqu'on en est à la quatrième promotion, à chaque fois c'est une trentaine ou 35 pères aidants qui sont formés. Là, c'est une licence professionnelle de l'Université de Paris 13. Deuxième condition, donc, pour cette émergence d'un métier, la conversion du savoir expérientiel en savoir-faire explicitable ou au moins conscient. C'est-à-dire qu'il faut que le père aidant conscientise son propre savoir expérientiel et le convertisse en savoir-faire et en savoir-y-faire, hein, comme on l'a écrit dans un des articles. Alors, ce savoir expérientiel, ben, c'est d'abord celui de la maladie, mais ensuite, c'est celui du système de soins, par exemple, du rapport à la médication ou du rapport à la contrainte. Hein, dans les gens de la première promotion, il y a des gens qui avaient vécu l'hospitalisation sous contrainte, la contention, la chambre d'isolement, qui avaient appris à négocier avec les médecins. Donc ça, c'est un petit peu le métier de patient. Et troisième composante du savoir expérientiel, c'est les savoirs du rétablissement. Comment moi j'ai fait pour aller mieux? Comment j'ai fait pour m'en sortir? Quelles ont été les ressources sur lesquelles j'ai pu m'appuyer? Bon, ça c'est la troisième grande source de savoir expérientiel lié à la maladie. Alors après, il y a aussi les savoirs d'expérience antérieure, par exemple le fait d'avoir été responsable d'association ou même d'avoir travaillé, hein, ça compte aussi, et les savoirs d'action acquis en cours de fonction. Tout ça, c'est à convertir en savoir-faire. Enfin, troisième composante de la construction d'un métier, le fait qu'il existe des lieux de formation continue, des lieux d'échange sur les pratiques, des lieux de regroupement, voire même des recherches-actions, des moments de soutien à l'innovation. C'est-à-dire que le père aidant professionnel puisse rencontrer ses pairs pour discuter du métier de père aidant professionnel. Troisième entrée donc dans la question de la professionnalisation, un groupe professionnel, autrement dit un minimum d'identité collective, de culture collective, un ensemble de compétences identifiables et légitimables sur le marché du travail et dans les agendas des politiques publiques. C'est là que les pères aidants professionnels sont les plus, sous ce troisième aspect, sont peut-être les plus fragiles. Parce que qu'est-ce qui favorise la professionnalisation, donc l'accès à la construction d'un groupe professionnel en général? L'augmentation du nombre des emplois. Alors c'est vrai que le nombre d'emplois des pères aidants salariés augmente, parce que d'abord les pères aidants salariés du CCOMS en sont à leur quatrième promotion, donc du coup ça fait à peu près au moins une centaine de personnes, et puis d'autres lieux se sont mis à créer des pères aidants salariés, Housing Force, certaines municipalités, des lieux de formation, etc. Donc je ne sais pas quel est le nombre exact de pères aidants salariés aujourd'hui en France, mais il a certainement augmenté. Deuxième condition qui favorise en général la professionnalisation d'un groupe, c'est la diversification des lieux d'emploi. Troisième condition, la création d'associations professionnelles, à même de mettre en valeur le mandat dans l'espace public, à même de défendre les conditions d'exercice. Hein, par exemple, les pères aidants de la première promotion ont dû revendiquer de passer de leur première condition salariale qui était d'être des fonctionnaires vacataires sur contrat à durée déterminée de la catégorie C de la fonction publique, d'aboutir à ce que ces CDD soient transformés en CDI, et d'autre part, ils se sont mis à revendiquer de passer de la catégorie C de la fonction publique à la catégorie B de la fonction publique. Hein, donc, les associations professionnelles sont nécessaires, comme pour d'autres groupes, les syndicats ou les ordres. Enfin, dernière condition pour favoriser la professionnalisation, c'est de pouvoir démontrer l'efficacité pratique de ce qu'on fait. Alors, en revanche, ce qui limite les processus de professionnalisation, toujours dans cette dernière acception de groupe professionnel, c'est la difficulté à fixer et formaliser les compétences, la trop grande diversité des pratiques. Or, c'est bien ce qui se passe pour les pères aidants salariés, parce que les pères aidants salariés ont été mis dans des conditions extrêmement différentes d'une équipe à l'autre, ne serait-ce que parce que la psychiatrie française est extrêmement diversifiée, et puis concrètement, ils se sont retrouvés dans des situations organisationnelles et professionnelles extrêmement différentes d'un lieu à l'autre. Ils travaillent beaucoup avec leur singularité personnelle et jusqu'ici, il a été impossible d'écrire un référentiel de compétences du père aidant salarié. J'ai assisté à des réunions où on essayait d'écrire ce référentiel de compétences et ça a été toujours impossible parce qu'il y avait toujours quelqu'un pour dire « mais ça, ce ne sont pas des compétences spécifiques ». Donc, cette professionnalisation des pères aidants salariés est réel. Enfin, je pense qu'on a l'embryon d'un groupe professionnel. Il y a une association professionnelle, mais elle reste limitée et fragile, comme d'autres groupes professionnels en France. C'est pas spécifique aux pères aidants salariés. Maintenant, je voudrais en arriver aux conséquences de la professionnalisation, c'est-à-dire du passage de la pérédance bénévole à la pérédance professionnelle, rémunérée, et dire qu'il y a des dérives possibles. Hein, c'est-à-dire que, alors que j'insistais tout à l'heure sur les effets tout à fait provocants et positifs, sur les effets de changement de la présence d'un pérédant professionnel sur les pratiques des professionnels des services psychiatriques, je vais maintenant développer un point de vue un peu différent, c'est dire qu'il y a des dérives possibles de la professionnalisation. Alors cette dérive essentielle, c'est le mimétisme par rapport aux professions reconnues. Alors pourquoi ce mimétisme? C'est parce que le fait d'imiter et de s'approprier des manières de faire que le MSP observe chez les soignants, bon là en l'occurrence essentiellement ces modèles c'est les infirmiers et les éducateurs spécialisés, hein, le fait de se mettre à imiter un infirmier ou un éducateur spécialisé, c'est une des réponses finalement que l'individu qui est isolé, je vous le rappelle, il y a un MSP dans une équipe psychiatrique, il est là tout seul en face des professionnels, c'est une réponse à la faible légitimité.
Une incise, MSP, médiateur de santé père.
Excusez-moi, MSP, médiateur de santé père, c'est le nom que se sont donnés les pères aidants salariés du CCOMS. Donc, la faible légitimité dont ils disposent, à partir de sa qualification, qui est inférieure à celle des autres professionnels présents, à partir du fait que ces compétences, elles sont basées sur un savoir expérientiel qu'il peut avoir, dans certains cas, du mal à montrer comme étant légitime, parce que ce savoir ne présente pas de consistance suffisante, n'est pas suffisamment explicitable, justement, en compétences. Donc, une réponse un petit peu spontanée, c'est de se mettre à imiter les soignants en place. Dans ce contexte, quand le médiateur de santé père se retrouve dans cette position symbolique, le savoir expérientiel reste en quelque sorte à l'état rhétorique, voire dissimulé. Et j'ai tout de même vu deux cas de MSP qui, qui, cachaient le fait qu'ils avaient été malades, ou même qu'ils étaient encore malades, qu'ils étaient encore soignés, et qui, au lieu de s'appuyer sur le savoir de la maladie, sur le savoir du fait d'avoir été patient, se mettent à s'appuyer essentiellement sur des savoirs d'action construits en cours d'activité, à force d'animer des groupes de parole ou à force de faire des visites à domicile. Ils se mettent sur le tas à apprendre un certain métier et ils cachent aux malades le fait qu'eux-mêmes sont des ex-malades ou des malades. Alors, je dis que c'est une dérive parce que, pour moi, l'intérêt thérapeutique et politique du MSP, ce sont justement ces décalages avec l'institution, ces façons de voir différentes, ce regard neuf. Et donc, si la professionnalisation s'obtient au prix d'une dépolitisation de son attitude, les pères deviennent ce qu'avait dénoncé tout à fait au début de l'expérimentation les syndicats infirmiers. Les pairs deviennent seulement de la main-d'œuvre complémentaire, moins rémunérée, moins coûteuse sur le plan de la formation initiale et qui vient boucher les trous, les manques de main-d'œuvre dans les services psychiatriques. Donc j'insiste sur le fait que le père aidant salarié, dans son éthique, dans la micro-politique de son travail, doit garder explicitement cette dimension politique de critique de l'existant, de critique de la violence de l'institution psychiatrique, du critique de son manque de bienveillance, par exemple, de son manque de respect à l'égard des usagers. Même s'il n'est pas seul à être porte-parole de ce rôle politique, puisque c'est les associations d'usagers qui gardent la prééminence dans ce domaine. Alors, en conclusion, ça va au niveau du temps, hein. Alors, en conclusion, je dirais que les pères aidants salariés, tels que j'ai pu les observer dans l'institution psychiatrique, sont vraiment porteurs d'une horizontalité soigné-soignant, c'est-à-dire qu'ils peuvent développer avec les malades une relation que j'appellerais une relation de camaraderie bienveillante, tout à fait différente de la relation que les soignants ont avec les soignés. Alors ça ressort très fortement des interviews qu'on a fait avec les usagers de la psychiatrie quand on leur demandait qu'a représenté pour vous le fait d'être suivi régulièrement par un médiateur de santé pair, en quoi est-ce différent de la rencontre avec un psychiatre, un infirmier ou un éducateur spécialisé. Et on trouve cette notion de camaraderie. Ce fait que c'est quelqu'un à qui on peut vraiment parler de tout sans avoir peur des relations de pouvoir. Hein, alors qu'avec le psychiatre, on est toujours en relation de pouvoir. Bon, même moi, je dirais en tant que sociologue, on me confiait des choses en disant « je vous dis ça à vous, mais je ne le dis pas à mon psy, parce que si je disais ça à mon psy, je risquerais qu'il augmente ma dose de médicaments. Hein, » Donc avec le psychiatre, un usager est toujours conscient de la relation de pouvoir, et donc avec le MSP, il développe une relation, je dirais, horizontale. Donc la qualité d'écoute des MSP, leur patience à prendre aussi en compte les petits problèmes de la vie quotidienne, les problèmes affectifs du MSP, ouvre aux malades des perspectives quant à l'aller mieux. Et finalement, le MSP construit des formes différentes de l'aller mieux. Donc là, on trouve vraiment une aide au rétablissement et une aide à l'empowerment. Je dirais aussi que... ce qui est surtout efficace dans cette émergence d'une nouvelle pratique de l'aide à l'aller mieux, c'est les savoirs issus du métier de patient. Parce que, par exemple, si un malade n'ose pas dire à son psychiatre les dosages sont trop élevés, j'aimerais bien qu'ils soient baissés, ça m'abrutit trop, etc. Parce que dans certains cas, les ordonnances sont lourdes, hein, puis les ordonnances sont systématiques, 4 médicaments systématiquement. Le MSP peut aider le patient à prendre la parole, et à dire au psychiatre « je voudrais changer mon traitement hein, ». Donc il aide le patient à co-construire le traitement avec l'institution psychiatrique. Donc ce sont ces savoirs-là, les savoirs du métier de patient et les savoirs concernant la manière de s'en sortir et d'aller mieux. Et je dirais qu'un des premiers effets des MSP, des médiateurs de santé pair, sur les patients, c'est l'espoir, hein, donner espoir. Voilà, les pairs salariés sont un exemple du fait que, ah mais oui, on peut s'en sortir. On peut, ce n'est pas, je ne suis pas malade de façon définitive, ce n'est pas une maladie totalement chronique. Je peux m'en sortir, je peux même voir guérir. Je voudrais aussi donc réinsister sur le fait que la présence de pairs salariés à l'intérieur même de l'institution oblige les soignants à modifier leurs pratiques quand ça marche, hein, parce qu'il y a aussi des cas où ça casse, hein, vous imaginez bien. Et d'ailleurs, dans la première promotion du CCOMS, la promotion expérimentale, sur les 30 MSP du départ, qui ont été salariés d'abord pendant un an de la formation et puis ensuite au moins quelques mois lors de leur premier CDD, il y en a 15 qui, pour des raisons diverses, ont abandonné. Mais je trouve que 15 qui tiennent dans une expérimentation, c'est vraiment très très bien. En fait, c'est un chiffre tout à fait positif. Et donc, cette réussite, enfin la démonstration de leur efficacité pratique, légitime la création d'emplois et l'émergence d'un métier. Or, bien sûr, le groupe professionnel reste fragile, car toutes les situations organisationnelles de service et toutes les personnalités de pair ne sont pas à même de permettre automatiquement la création et le maintien dans la durée de ce type d'emploi et de ce type de démarche. Je vous remercie.